vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission Corentin et Damien et Claude à la technique. L'émission de ce soir est consacrée aux communs, à leur partage et plus particulièrement aux communs numériques en lien avec l'adoption de la loi République numérique datant du 26 janvier dernier par l'Assemblée. Pour discuter de ces sujets et bien sûr nous éclairer, nous recevons ce soir deux invités, donc Pierre-Carl Langlais, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vos travaux de recherche portent plus particulièrement sur la contribution d'outils de text mining et de lecture distante à l'étude de la presse ancienne. Vous avez à votre actif également plusieurs projets de libre diffusion. Vous êtes administrateur de Wikipédia francophone depuis 2012 et membre du collectif Savoir commun, dont on reviendra un peu plus tard. Et notre deuxième invité, Sylvain Mercier, donc bibliothécaire engagé pour le développement des médiations numériques et les communs de la connaissance. Donc vous êtes un professionnel des bibliothèques et formateur. Vous êtes également cofondateur du collectif Savoir commun, donc politique des communs de la connaissance. Et vous animez depuis 2005 le blog Bibliosession, ou peut-être qu'on pourra également en dire un petit mot durant l'émission. Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 pour intervenir à tout moment. Et également réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin, ou sur la radio RFF bien sûr, ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose de commencer cette émission sur les communs, et en particulier, on verra un peu plus tard les communs numériques, par une mise en situation, comprendre vraiment ce que sont les communs, revenir sur un petit historique et les définir. Les biens communs, les communs, c'est des notions qui peuvent sembler différentes et qui le sont. Et donc, ma première question sera pour Sylvain Mercier, de nous expliquer un petit peu le positionnement de l'un par rapport à l'autre, et puis on convergera un peu plus tard sur les biens numériques.
Oui, donc les communs, c'est ce qui appartient à tous et ce qui appartient à personne. Donc c'est une formulation qui peut paraître un peu étrange. En réalité, donc les communs ou les biens communs, effectivement, il y a une différence entre les deux. C'est l'alliance de trois éléments qui sont indissociables. Pour qu'il y ait commun au pluriel, hein, et, il faut qu'il y ait une ressource, il faut qu'il y ait une communauté et que cette communauté, elle gère cette ressource avec des règles de gouvernance. Elle s'organise en quelque sorte, elle fixe des règles pour l'entretien et, disons, pour pérenniser, entretenir cette ressource et faire en sorte qu'elle soit, qu'elle fructifie, qu'elle se développe. Voilà.
Des exemples, par exemple.
Alors, des exemples. Le meilleur exemple et le plus connu, peut-être, dans les communs directement numériques, c'est Wikipédia. Mais en réalité, les communs, on va en parler un peu plus tard, je pense. En réalité, les communs, ça vient de très loin. Ça vient du XIIe siècle. Et c'était pas du tout lié à l'information au départ, mais c'était lié au bien naturel, en fait. C'était les pâturages qui étaient en commun. Ça veut dire quoi, les pâturages en commun? Ça veut dire qu'ils étaient gérés sans qu'il y ait une propriété et un propriétaire qui, en fait, alloue un espace qui est exploité par un paysan. C'était les paysans qui, en fait, avaient des droits d'usage qui étaient différents les uns des autres en fonction des différents corps de métier, d'ailleurs, pour exploiter ces ressources. Et donc, ça appartenait bien à tous et à personne, au sens où, eh bien, il y avait des coutumes. Et en fait, le commun est très lié à la coutume, donc pas le droit écrit, et qui du coup a été en fait contrebalancé par un mouvement qu'on a appelé le mouvement des enclosures, qui a fait qu'en fait entre le 12e et le 16e siècle, il y a eu en fait justement une appropriation au moment où les seigneurs se sont dit finalement la ressource sera peut-être mieux gérée, donc la ressource c'est la forêt, c'est les pâturages, si j'en suis propriétaire et que finalement je vais employer en fait, donc c'est le développement aussi du salariat directement. Alors qu'en fait, ces ressources étaient très bien gérées par l'ensemble de ces coutumes. Donc ça vient de là, en fait, les communs. Et c'est très intéressant de voir la filiation historique qu'il y a entre cette gestion des ressources pérennes et le numérique.
Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le débat contemporain sur les communs vient aussi une redécouverte récente de ces communs naturels. C'est-à-dire qu'initialement, on considérait que c'était des formes qui n'étaient pas intéressantes, en fait. Ce qu'on voyait juste dans les débats sur les enclosures, c'était l'avènement du capitalisme anglais, l'idée qu'on avait mis à fin à des formes arriérées, finalement, de gestion des biens naturels, et qu'on avait imposé des formes de gestion par la propriété privée, beaucoup plus intenses, beaucoup plus efficaces. Et ce qui s'est passé de manière très nette à partir des années 60, 70, avec des travaux de gens comme l'économiste Elinor Ostrom, c'est cette idée finalement qu'on va regarder le débat à l'envers et qu'on va justement identifier d'abord simplement classer toutes ces formes alternatives de gestion des biens naturels. Et Elinor Ostrom, elle fait énormément de travail très empirique au départ, de simplement s'intéresser à des communautés très diverses qui peuvent être en Suisse, qui sont toujours existantes parce que les communs n'ont pas complètement disparu, qui peuvent être en Suisse, qui peuvent être en Amérique du Sud, qui peuvent être en Afrique, et qui ont toutes pour trait commun d'à la fois considérer que la ressource va être un bien partagé, qui ne va pas être approprié par personne, ni par un individu, ni par l'État, et qu'il va y avoir, contrepartie logique, il va y avoir des règles qui vont elles-mêmes définies en commun. Donc on est dans une logique qui n'est pas celle d'une démocratie au sens formel du terme, au sens où on va avoir un vote strict qui va définir des représentants et ainsi de suite, mais en une sorte de débat continu au sein de la communauté pour s'accorder sur des règles qui sont elles-mêmes relativement informelles. Donc ça, le rôle de l'informel est très important dans les communs. Cette idée qu'on trouve encore sur Wikipédia, où le cinquième principe fondateur, c'est « n'hésitez pas », qui remet en question potentiellement toutes les règles qu'on essaierait d'imposer. Donc c'est vrai qu'il y a une force de la coutume, une force de l'informel qui est très prégnante dans les communs et qui est, je pense, en partie à l'origine de leur succès dans le monde numérique.
D'accord. Et du coup, si on continue un peu le jeu des définitions, parce qu'on va beaucoup parler de communs dans cette émission, mais également de biens communs, est-ce que, juste pour nous éclairer, avoir une petite distinction entre les deux?
Oui, en fait, quand on parle de bien commun, on va centrer le débat sur le bien, donc sur la ressource, en réalité. Et donc, on va se concentrer sur cette question-là. Alors que quand on parle de commun, qui est le terme qui tend à s'imposer maintenant, on va en fait avoir une approche qui va être centrée sur les règles de gouvernance et donc sur en fait l'aspect beaucoup plus politique des choses, politique au sens large du terme, comment on s'entend en fait pour créer des règles et puis pour gérer quelque chose. Mais la gestion est secondaire par rapport à la démarche en fait de construction des règles.
Il me semble que la distinction est apparemment intéressante, c'est pour le domaine public. Donc il y a toute une partie des œuvres qui entrent dans le domaine public en France, qui sont en fait des communs, des biens communs au sens strict, mais qui ne vont pas nécessairement être des communs tant qu'il n'y a pas une communauté derrière qui va faire un travail d'indexation, qui va faire un travail de mise en valeur de ces biens justement pour les donner à lire notamment sur Internet ou ailleurs.
Et du coup, au départ, ce sont pas des communs en tant que tels. Enfin, je fais des questions un peu de novice, elles rentrent dans le domaine public après un certain nombre d'années, en fait.
Donc, elles deviennent une ressource commune au sens strict, au sens où il n'y a plus de propriétaire qui est derrière. Et la question qu'on peut se poser, c'est si elles deviennent des communs tant qu'il n'y a pas finalement une forme de communauté qui va gérer cette ressource, qui va s'assurer qu'elle soit disponible, qu'elle soit pas à nouveau captée, puisqu'il y a cette logique d'enclosure qui est toujours très prégnante, y compris dans le domaine public. Où on parle de copie fraude, c'est le fait de revendiquer des droits indus sur ce qui est dans le domaine public. Et s'il n'y a pas cette communauté derrière pour défendre la ressource, pour la mettre en valeur, pour la protéger, quelque part, il y a le risque que la ressource devienne...
Il faut juste aussi, sur la question de la définition et des mots, faire attention à ne pas parler du bien commun. Parce que le bien commun, du coup, ça a un sens différent. Le bien commun, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est le secteur public. Or, les communs ne sont ni strictement publics, ni strictement privés. C'est justement ce domaine intermédiaire, qui est pas d'ailleurs un domaine intermédiaire, d'ailleurs Elinor Ostrom insiste là-dessus, c'est pas une alternative entre public et privé. C'est une forme d'articulation entre les deux à travers les communs et à travers ces ressources partagées.
Donc, si on récapitule, les biens communs, c'est un ensemble de ressources qui existent et on le transforme en commun en mettant une communauté, un ensemble de personnes, que ce soit, comme on le verra un peu plus tard sur le numérique, mais on peut imaginer aussi d'autres types de ressources.
Tout type de ressources, en fait, les jardins partagés qui fleurissent un petit peu partout dans les villes aujourd'hui, en fait, c'est une forme de propriété publique qui est mise à disposition par les municipalités pour être gérée en commun. Et donc, la ville, le service public se met un peu en retrait en disant, vous avez allez-y, créez vos propres règles, intéressez-vous à ça, et puis entretenez ce jardin, faites fructifier cette ressource.
Mais il appartient bien à quelqu'un à l'origine.
Il appartient bien à quelqu'un, mais en fait, les règles de gestion sont véritablement propres à la communauté qui gère cette ressource. Ça peut être le cas, par exemple, dans les villages de fours partagés. Vous avez encore des fours partagés dans certains endroits.
Et c'est un phénomène qui tend à se développer en ce moment. On en entend beaucoup parler dans beaucoup d'émissions. C'est un thème qui est à la mode. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe fortement dans le temps? Et quelles sont les ressources et les tenants de ça? Est-ce que...
Ce qui est vrai et ce qui me change à changer quand même la donne avec l'apparition du numérique, c'est l'apparition des grands communs. C'est-à-dire qu'avant, on parlait plus souvent que de petites communautés qui n'étaient pas effectivement à même à lutter avec des grandes industries, etc. Dans le cas de Wikipédia, on parle quand même d'une encyclopédie qui réunit 5 millions d'articles dans la version anglophone, environ 36 000 contributeurs chaque mois en moyenne qui sont actifs. Donc on est face à des logiques qui pourraient s'apparenter à des formes d'annoncée culturelle. Et d'ailleurs, techniquement, Wikipédia a venu remplacer une forme culturelle qui était des encyclopédies comme Britannica. Et il y a eu cette possibilité de faire émerger des formes de collaboration qui s'apparentaient à des communs parce qu'il y a ces outils numériques qui sont arrivés et qui sont venus assister la gouvernance en permettant de libérer à la fois du temps pour édicter des normes et d'avoir aussi des relais en termes d'algorithmes, en termes de logique informationnelle pour relayer ces normes, les faire appliquer à une très grande échelle. Donc je pense que c'est là-dessus aussi où la notion de commun elle revient assez fortement et on est effectivement, en tout cas dans le domaine de l'information, dans une logique où c'est plutôt les communs qui gagnent du terrain que ce qui a pu se passer avec les communs naturels, où c'était plutôt l'inverse, où on a effectivement à la fois, bon, il y a Wikipédia, dans le champ des logiciels libres, moi, il y en a beaucoup qui, dans certaines communautés, par exemple, moi je connais très bien le langage R, qui est un langage de statistique, qui s'est imposé comme langage statistique de référence face à des impératifs commerciaux, et qui est géré par une communauté comme Wikipédia. Donc on a effectivement, je pense, ces nouvelles logiques qui émergent assez fortement.
Et du coup, quel est l'intérêt pour ces communautés de développer ça? Parce que du coup, il y a une mobilisation, voilà. Et je pense qu'il y a différents intérêts. Il y a des passionnés jusqu'à des professionnels. Comment ça s'intègre?
Parce que je pense qu'il est intéressant, c'est que ça fait coïncider l'usage avec la mise en pratique. C'est-à-dire que c'est souvent un problème lorsqu'on a un logiciel propriétaire, souvent c'est qu'il y a une décorrélation entre les deux. Donc on met en place des outils, des briques, mais on ne sait pas forcément ce que les gens vont faire avec, et souvent ils veulent faire autre chose. Ce qui est intéressant des logiciels libres, c'est que l'utilisateur, bon, plutôt utilisateur confirmé, est en mesure de faire une sorte de rétrocession de son usage là-dessus. C'est la même chose sur Wikipédia, où tout lecteur, à chaque moment, peut devenir auteur. Et je pense que c'est là-dessus, finalement, qui crée une forme d'efficacité des communs, qui est d'être l'endroit où, finalement, les gens ont plus facilement trouvé ce qu'ils cherchent.
Voilà, puis c'est aussi lié à une tendance très contemporaine de vouloir participer, de vouloir être acteur d'eux, en fait, hein, y compris, d'ailleurs, pour les communs numériques, c'est très vrai, parce que la participation, elle est concrète, en fait, sur les sites web, mais aussi pour la gestion des ressources naturelles, hein. Ce qui s'est passé en Italie autour de la gestion de l'eau, c'était justement une manière de dire, on veut que l'eau soit gérée de manière municipale, donc qu'elle soit effectivement un bien public, mais on veut que sa gestion se fasse en commun, c'est-à-dire avec des assemblées de gens qui décident des règles, qui font en sorte qu'il y a par exemple les premiers mètres cubes d'eau qui soient gratuits pour les familles qui sont nécessiteuses, tout un ensemble comme ça de choses qui se construisent autour de la ressource naturelle. Et du coup on parle en fait de partenariat public commun ou de partenariat privé commun, ça peut arriver également.
Ah, c'est un phénomène en plus qui est en train de se multiplier, enfin en train de naître en France, en tout cas là où tu parles de la gestion de l'eau. Tu parles de la gestion de l'eau, c'est vrai également le cas dans l'énergie par exemple, où on voit de nombreuses initiatives citoyennes qui se mettent en partenariat avec le public pour créer des sociétés d'économie mixte pour gérer la production d'énergie à l'échelle locale.
Voilà, tout à fait, autour de ce type de ressources. C'est...
Alors du coup peut-être on peut passer au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, parce qu'on a la chance quand même d'avoir autour de la table de grands spécialistes des communs numériques. Du coup, Pierre-Carl, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure via les logiciels libres. Peut-être avoir très rapidement une définition du bien commun numérique, faire le lien avec ce qu'on disait en introduction. Et voilà, je poserai les questions après.
Alors, ce qui est spécifique au bien commun numérique et qu'il distingue finalement des biens communs naturels, c'est le fait qu'il est, comment on peut dire, non rival. C'est un terme très spécialisé pour dire qu'on peut faire autant de copies que l'on veut à un coût finalement très très faible. Ce qui n'est pas le cas finalement dans les biens naturels, et ni dans les biens physiques, ni dans les biens industriels. Donc on est d'emblée dans une logique où finalement il n'y a pas de coût additionnel pour créer des copies, et où, de fait, la ressource, elle peut être véritablement commune sans avoir à éditer des droits d'usage très contraignants. Donc, ce qui se passe avec le logiciel libre, avec Wikipédia, c'est que si quelqu'un reproduit un article, le republie ailleurs, prend un logiciel, le republie ailleurs, va faire des modifications dessus potentiellement ou pas du tout, ça ne représente pas un coût supplémentaire pour la communauté. Donc, on peut décréter que les ressources sont véritablement libres. Et ce qu'il garantit, c'est ces licences libres, puisque le droit n'est pas vraiment adapté actuellement pour désigner ces ressources-là. Donc, on a créé des licences libres qui sont un peu une sorte de détournement, quasiment un hacking des contrats traditionnels qu'on avait entre éditeurs, etc. En disant, il y a une marge de manœuvre, finalement, dans ce monde du numérique, dans le droit d'auteur, pour créer une sorte de contre-droit d'auteur qui n'ont pas défini des restrictions, mais défini des libertés. Et quel type de liberté on peut avoir lorsqu'on va réutiliser ce bien numérique?
D'accord. Et du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a un modèle économique au bien commun? Parce que finalement, le logiciel libre, quelqu'un l'a conçu, l'a pensé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une attaque au droit d'auteur ou en tout cas une remise en cause du droit d'auteur?
En fait, les communs, ils permettent de franchir un peu la barrière qu'on fait entre marchands et non-marchands en instituant une autre forme de frontière, qui est une frontière entre exclusif et non-exclusif. Donc en fait, le modèle économique du logiciel libre, c'est de dire ce que je mets dans le pot commun reste disponible dans le pot commun, toujours. Par contre, ce que je vais vendre, c'est pas justement la propriété et un droit d'accès à mes données, c'est pas une exclusivité, ça va être des services qui vont permettre justement de développer cette ressource. Et donc, ce qui est très intéressant avec les communs, c'est que du coup, on change cette frontière-là. Et donc, finalement, un des plus gros obstacles aux communs, c'est ce qu'on appelle les enclosures. Et donc, une forme d'enclosure, c'est de mettre une exclusivité. Et ça, c'est valable sur la connaissance, comme sur le logiciel, comme sur les données. Et donc, aujourd'hui, dans les communs numériques, il y a pas mal de discussions autour de ces questions des licences. Et effectivement, les licences ne sont qu'une manière d'exprimer, en fait, une gestion des droits autour d'une ressource. Et donc la grande découverte, finalement, la grande invention du logiciel libre, ça a été de dire ce qui est dans le pot commun doit rester dans le pot commun. C'est la licence GNU, en fait, la licence GPL, qui du coup a été l'innovation juridique majeure sur laquelle après se sont construits en fait les communs numériques.
Pierre Carl, vous disiez que les communs ont pas de coût à la reproduction, c'est vrai, mais si on prend l'exemple de Wikipédia ou de beaucoup d'autres communs, il y a un coût d'infrastructure qui est très important parce que il y a des accès qui peuvent être massifs, ou si on prend les exemples de vidéos gourmands en bande passante et du coup ça rejoint un peu la question de Damien derrière, et je vais utiliser des gros mots, mais il y a un business model, il y a de l'argent à fournir parce que la reproduction est possible et à moindre coût, mais la mettre à disposition dans ce monde du net qui est compliqué, on y reviendra, et de plus en plus, il y a quand même une réflexion là-dessus qui doit être assez diverse en fonction des différents types et des différents modèles de communs.
Non, c'est vrai que c'est une vraie question, et puis c'est aussi la question de la pérennité, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait une communauté derrière pour pouvoir continuer de vivre la ressource, sinon après elle va finir par péricliter, par mourir. Dans le cadre de Wikipédia, il y a effectivement des besoins d'infrastructures, mais qui sont beaucoup moins inférieurs finalement à l'ampleur des activités que peut avoir tout l'ensemble des projets Wikipédia. Donc actuellement, Wikipédia se rémunère pour cette partie-là par les dons des utilisateurs. Donc tous les ans, vous avez les fameuses bandes qui vous empêchent de consulter Wikipédia, pour vous dire, donnez-nous un peu d'argent. Et donc, ils sont là pour financer l'infrastructure. Et au total, le budget en tout, ça représente quelques dizaines de millions d'euros, sachant qu'on parle de projets qui sont à l'échelle de l'ensemble du globe, qui ne concernent pas seulement Wikipédia, mais plein d'autres projets. Il y a la bibliothèque Wikisource, il y a les données sur Wikidata, il y a les images sur Wikimedia Commons. Donc, quelque chose qui est à la fois, dans l'absolu, beaucoup, mais finalement assez peu par rapport à la capacité de gestion qu'on peut avoir par rapport à un objet comme Wikipédia. Donc effectivement, le fait d'avoir les communs ne sont effectivement pas coupés de l'économie de manière générale, ça c'est clair, et dépendent en partie à la fois de définir potentiellement des ressources ou une forme de bénévolat qui est derrière, qui assure finalement la pérennité de la ressource. Mais on voit que ça pose potentiellement un problème, et ça voit pas mal de logiciels libres qui ont une très petite communauté parce qu'il y a très peu de gens qui ont les compétences pour intervenir et qui aboutit des fois à des failles majeures. Donc il y en a eu une très grosse il y a quelques années, un logiciel de cryptographie qui était utilisé sur quasiment tous les sites web parce qu'il était libre, parce qu'il était facile à utiliser et ainsi de suite, mais qui n'était pas assez entretenu par sa communauté, et il y a eu une faille majeure, ce qui fait que tout l'ensemble du web a été affecté. Ce qui se passe aujourd'hui pas mal dans le logiciel libre aujourd'hui, c'est que les entreprises ont compris qu'elles ont intérêt à verser au pot commun. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes entreprises du web, Microsoft, Google, et ainsi de suite, elles ont une politique de subventionner en partie ces logiciels de manière à être sûr qu'ils ne soient pas à côté de la plaque, si, sachant que ça affectera l'ensemble de l'infrastructure.
Mais quel est leur intérêt, quoi ? On y reviendra peut-être un petit peu dans la prochaine partie, mais peu importe. Quel est leur intérêt ? Parce que globalement, eux, ils pourraient tout à fait prendre une petite équipe, Google peut se le permettre, faire leur logiciel de cryptographie, le vendre sur leurs plateformes multiples et variées comme ils savent si bien le marketer. Et du coup, quel est leur intérêt personnel à reverser dans le pot commun, à s'investir là-dedans pour les autres?
Mais là, on en vient à ce qu'on disait Silver, c'est-à-dire l'absence d'exclusivité qui permet finalement d'élargir une communauté qui irait au-delà des quelques salariés qu'on mettrait potentiellement dessus, qui va pouvoir faire ses retours dessus, qui va pouvoir développer et faire vivre le logiciel au-delà de ce qu'on pouvait initialement penser pour lui. Et c'est la raison pour laquelle le logiciel libre a été pragmatiquement considéré comme un modèle qui est souvent extrêmement efficace pour développer des logiciels et assurer leur développement.
Alors je vous propose, peut-être avant de y revenir en détail et de faire un point sur vos savoirs communs, de faire une première pause musicale.
Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous venez d'écouter La Rigueur en chantant de Catherine, l'émission de mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée ce soir au commun numérique. Autour de la table, nous avons toujours Pierre Carle, entre autres docteur en sciences de l'information et de la communication, et Silver Mercier, toujours bibliothécaire engagé. Ce que je propose dans cette deuxième partie, avant d'attaquer dans ce gros morceau qui sont les Creative Commons, c'est de présenter un petit peu. Ben, je viens de citer un peu ce que vous faites, mais vous êtes, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Savoir Commun. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots.
Oui, donc le collectif Savoir Commun, c'est un collectif d'une centaine d'individus, en fait, un collectif totalement indépendant qui s'intéresse en fait aux politiques des communs de la connaissance. Alors on s'est créé en fait en 2012 à l'initiative donc de Lionel Morel et moi-même pour en fait non pas défendre les communs, on se veut surtout pas une sorte de syndicat des communs, parce que les communs ils se gèrent bien tout seul en fait. Le gros enjeu, c'est plutôt de définir des conditions d'existence qui soient les meilleures possibles pour les communs. Que devrait être une société qui accueille, qui favorise le développement et qui permet l'épanouissement des communs de la connaissance? C'est cette question-là qu'on s'est posée, et donc on y a répondu dans un manifeste en 10 points en fait. On s'est dit voilà, il y a 10 enjeux sur lesquels on va faire du lobbying concrètement, et donc nos actions, c'est on n'organise pas des grands colloques et tout, mais on est plutôt sur des auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans des commissions diverses et variées, au Conseil national du numérique, par exemple, pour essayer de conseiller en fait, voilà, les décideurs, et puis d'influencer les lois, hein, de faire du lobbying institutionnel. C'est pas un gros mot du tout pour nous. Et l'idée, c'est donc de défendre un certain nombre de mesures. Je vais vous les citer rapidement pour que vous ayez une vision de ce qu'on défend. Par exemple, nous, on pense que la neutralité du net est absolument vitale. Donc c'est un enjeu tout à fait important.
Est-ce que vous pouvez juste rappeler deux secondes ce qu'est la neutralité du net? Parce que je pense que nos auditeurs ne savent pas forcément
le moi petit. Non plus. Hein.
L'idée, c'est de ne surtout pas avoir un internet qui discrimine en fonction des contenus. Hein, il y a cette tentation de dire, si vous avez besoin, par exemple en tant que créateur de site, de faire de la vidéo, vous allez payer quelqu'un pour pouvoir faire votre site et que votre site soit efficace sur internet. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que l'internet ne soit pas égal pour tout le monde, et finalement la société qui aurait une grosse ressource financière pourrait créer un site avec de la vidéo, ce que ne pourrait pas faire un petit entrepreneur. Et donc pour nous, la neutralité de l'internet, c'est l'égalité possibilité pour tous d'avoir le même internet avec la même vitesse, des mêmes contenus. C'est ça, c'est cette idée-là.
Et ce qui
internet
aussi...
est un commun, en fait. Internet, c'est le socle commun qui permet le développement des communs numériques. Donc, si on n'a plus ça, en fait, on n'a plus la base qui nous permet de développer le reste.
Et du coup, ça permettra aussi aux petits de se développer, parce que sinon, ce serait un pouvoir des gros.
Exactement. Ensuite, on défend la question des données personnelles comme un commun de la connaissance. Alors ça, c'est un sujet un peu compliqué à expliquer, mais l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'elles soient soit complètement publiques, soit complètement privées, mais que ce soit entretenu de manière communautaire au sens large du terme. On défend aussi une science ouverte. Une science ouverte, c'est pas une science juste en libre accès où vous avez accès au contenu scientifique, c'est une science dans laquelle vous pouvez réutiliser les données des chercheurs. Vous pouvez partir et refaire les expériences, refaire les protocoles, non pas juste avec quelques indications, mais vraiment avec les données des chercheurs. On défend aussi une littératie des communs. Littératie des communs, c'est l'école. Comment est-ce que l'école nous forme non pas juste à Internet en général, mais à la manière d'être acteur. Voilà, on a des gens qui sont dans l'éducation nationale. On peut citer par exemple Hélène Mulot qui a fait un excellent travail autour des littératies numériques, la littératie des communs au sein de l'éducation nationale. L'ouverture des données publiques, ça c'est un sujet aussi qu'on défend. Les services publics produisent des données, donc ils mettent au pot commun. Est-ce que ils le font dans des bonnes conditions et quelles sont ces conditions? Les logiciels libres, on en a déjà parlé un petit peu, l'usage des logiciels libres en tant que commun, c'est-à-dire en tant que code réutilisable et modifiable. On défend aussi la question du partage non marchand d'œuvres, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il nous semble que plus les données culturelles, les œuvres culturelles, les contenus culturels circulent et plus en fait on peut construire un terreau d'une politique culturelle qui est efficace et qui surtout est bénéfique pour la société. On défend l'existence d'un domaine public qui soit reconnu, non pas comme une sorte de vous savez, on dit tomber dans le domaine public, donc grosso modo c'est un peu péjoratif, tout ce qui est tombé dans le domaine public, donc il y a ce qui est protégé et ce qui est noble, et puis grosso modo tout le reste, tout ce qui est un peu vieux. Nous on défend une vision du domaine public qui dit c'est en fait le socle de notre culture commune, et donc il doit être défendu comme tel et valorisé, et donc défini en particulier dans la loi également. Et on pense aussi que les communs doivent être passés au cœur des modèles économiques de l'information, c'est-à-dire qu'on doit construire, comme on en parlait tout à l'heure pour le logiciel libre, des modèles économiques qui ne vendent pas des données, qui ne vendent pas des droits d'accès, mais plutôt qui vendent des services autour des contenus culturels. Ça, c'est tout un enjeu également. Et enfin, on pense que les communs, ils sont incarnés sur les territoires. Nous, au départ, dans Savoir Comment, on est des bibliothécaires, on est des gens qui entretiennent des lieux d'accueil du public dans lesquels on a accès à la connaissance, mais dans lesquels on manipule la connaissance, dans laquelle on fait du remix, on travaille sur les contenus. Et donc, il nous semble que ce qu'on appelle les tiers-lieux, donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces de coworking, les Fab Labs, tous ces lieux de création sont essentiels et sont du coup des enjeux de politique publique qui sont liés aux communs. Plus ces lieux-là fonctionnent, plus ils sont rentables, viables et fiables aussi, en termes de développement, et mieux c'est pour la société.
Alors peut-être qu'on y reviendra, parce que on voit que c'est un manifeste assez complet, et à la lecture un peu de ce qu'était la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée fin janvier, on voit aussi qu'il y a certaines dispositions qui sont communes, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vous avez juste dit un mot tout à l'heure, un gros mot, je sais pas, mais de l'activité de lobbying. Moi, j'ai une question du coup. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui vous répondent favorablement?
Oui, ça marche. Dès qu'on est en fait visible et qu'on a un discours un petit peu construit auprès des décideurs, forcément, ça fonctionne. Je veux dire, dès qu'on leur propose aussi des choses qui sont qu'on peut connecter à des projets de loi actuels. C'est ce qui s'est passé en fait pour la loi République numérique, dans laquelle on a été un peu acteur à deux niveaux, acteur en amont, donc au moment où le projet de loi s'élaborait. Donc là, effectivement, c'est un lobbying qui est un peu caché en fait du grand public, avec lequel nous on a l'habitude de fonctionner, mais qui est pas toujours très lisible. Et ce qui a été intéressant avec cette loi, c'est que pour la première fois, Axel Lemaire a proposé une consultation entièrement publique et donc a mis ce projet de loi sur internet avec une plateforme dans laquelle on pouvait faire des commentaires, des votes. Donc évidemment, nous on a participé de manière assez intense avec d'autres organisations, on a eu des propositions de Wikimedia, de la Quadrature du Net, mais aussi d'individus qui avaient envie de porter un sujet comme ça, et donc ça a été vraiment une manière de, disons, voilà, de faire du lobbying, mais de manière publique, ce qui n'a pas été du tout inintéressant. Alors évidemment, après, ça s'est un petit peu gâté, comme souvent dans ce genre d'exercice, puisqu'il y a des sujets qui sont arrivés vraiment dans le top des préoccupations des gens qui avaient participé, qui ont été complètement exclus ensuite des décisions. Et là, la démocratie représentative, au mauvais sens du terme, a repris en quelque sorte le dessus. Et finalement, il y a des choses qui ont été décidées qui n'étaient pas du coup, qui ne reflétaient pas en fait les envies de la communauté qui s'est emparée de ce texte.
Et du coup, pour faire le lien avec le sujet de cette partie qui va être les Creative Commons, est-ce que c'est quelque chose que, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un Creative Commons par rapport à ce qu'on a vu jusque-là? D'autre part, voir est-ce que c'est un vecteur qui peut parler justement aux politiques.
Alors, je vais revenir rapidement sur l'origine, parce que c'est assez intéressant. Et ça revient justement, on a parlé du domaine public tout à l'heure, et ça revient d'une attaque contre le domaine public. Donc, il y a eu, dans les années 90, aux États-Unis, ce qu'on appelait la loi Mickey. Donc, c'est la loi qui a permis d'éviter que Mickey rentre dans le domaine public en prolongeant la durée de la protection des œuvres aux États-Unis. Donc, c'est passé 75 ans, 95 ans après publication. Mais ça a eu l'effet incident de geler, en fait, complètement tout le domaine public américain. Et c'était aussi le début, finalement, aussi des sites internet. Donc, il y avait notamment un amateur, qui s'appelait Erich Eldred, qui publiait des romans, des textes littéraires, et qui s'est rendu compte que tout allait être gelé. Et il a tenté d'intenter un procès contre les États-Unis. Donc, il était quand même assez ambitieux, avec pour idée qu'on allait probablement casser cette loi. Il n'est pas parlvenu. Par contre, son avocat, qui s'appelait Lawrence Lessig, lui a dit qu'il allait créer finalement une sorte de contre-domaine public, une sorte de domaine public vivant. Et Lessig a inventé comme ça les Creative Commons. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre à revers l'idée que aux États-Unis, à cette époque, le domaine public est gelé, mais c'est pas grave, on va créer un autre domaine public volontaire, alimenté par les gens qui ont envie que leur œuvre soit partagée, puisqu'à l'époque, on pensait notamment à tous ces gens qui ont écrit des bouquins qui sont fatalement oubliés, qui sont jamais republiés et auxquels Internet peut donner une seconde vie. Donc c'était vraiment le point de départ de ce mouvement des Creative Commons, donc de créer des contrats normalisés. Donc c'est l'idée qu'à la fois il faut créer des contrats qui soient très facilement compréhensibles par tout le monde. Donc il y a plusieurs types de contrats possibles qu'on peut nouer avec son public finalement, en disant je veux être crédité, je veux que mon œuvre soit modifiée ou pas. Je veux que qu'elle soit une réalisation commerciale ou pas, donc il y a toute une série de restrictions ou pas qui peuvent s'appliquer. Et surtout, c'est normalisé, donc il n'y a pas l'ambiguïté d'avoir 100 000 conditions juridiques qui vont s'appliquer différemment dans tous les pays du monde. Et Creative Commons, ça fait un très gros travail pour que ce soit uniformisé à l'échelle de tous les pays du monde, avec une grosse équipe de bénévoles. Donc concrètement, de créer un contrat droit d'auteur qui soit aussi en commun finalement.
Du coup, c'est en compétition directe avec les droits d'auteur. Et j'imagine que dans parler des on va dire confrontations, des accompagnements avec les politiques et les lobbies du coup de l'autre côté qui sont ceux des droits d'auteur, ça doit être compliqué à vendre.
En fait, je dirais pas que c'est en compétition. C'est une autre manière de voir le droit d'auteur.
On voit l'envers.
Voilà. En fait, il y a une sorte de vision maximaliste du droit d'auteur qui s'est imposée, et c'est particulièrement visible dans le droit français où en fait, quand vous avez quelque chose qui circule sur Internet, c'est tout droit réservé. Donc pour faire la moindre modification, vous devez contacter l'auteur. Évidemment, les gens ne font pas ça sur Internet. Et donc, une manière, si vous voulez, de répondre à ces usages, ça a été de dire, finalement, on va prendre l'inverse. On va dire, tout est permis, sauf telle et telle et telle condition. Et donc, et c'est vraiment une autre vision du droit d'auteur. Et c'est pas du tout, en fait, antinomique. C'est-à-dire que vous avez le degré maximal, c'est le droit d'auteur traditionnel. Et puis, vous avez les degrés qui sont, disons, intermédiaires. Mais on revient bien à cette idée des communs de gérer des droits d'usage, un ensemble de droits d'usage qui sont différents, qui sont paramétrables les uns par rapport aux autres.
Et est-ce qu'il y a un modèle juridique, est-ce qu'il y a une légitimité juridique à ces Creative Commons?
Il y a eu un gros travail de juriste pour essayer d'acclimater justement. Donc il y a deux versions. Il y a la version que tout le monde va voir où là c'est décrit très brièvement et succinctement et compréhensible par tout le monde en disant réutilisation non commerciale, pas de modification dérivée et ainsi de suite. Donc là c'est lisible. Et puis quand vous cliquez le lien, ce que vous signez réellement numériquement lorsque vous adoptez ces licences. C'est un contrat beaucoup, beaucoup plus détaillé qui est acclimaté dans la plupart des grandes législations du monde, dont en France, et qui a fait l'objet d'un intense travail de juristes spécialisés, travail essentiellement bénévole, pour aboutir justement à une rédaction qui puisse être sortie en cas de procès.
Et du coup, ça se manifeste comment ? On peut peut-être prendre l'exemple de Wikipédia.
Alors, Wikipédia est sous licence Creative Commons, justement. Mmh. Ce qui se passe concrètement, c'est que n'importe qui peut reprendre, republier un article de Wikipédia, peut le revendre aussi potentiellement, et que ça peut servir finalement à une série de réutilisations qui peuvent être très larges. C'est encore plus visible dans le cas des images, puisque là, pour le coup, on a des exemples, des vidéos, on a des exemples typiques de remix, c'est ce que tu disais, Sylvain. Mmh. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir créer de nouvelles œuvres à partir d'œuvres préexistantes, sans avoir à s'embarrasser de contacter tout le monde. Ce qui peut être très embêtant si par exemple on fait des collages où on assemble un très grand nombre d'œuvres et là s'il faut commencer à contacter tout le monde, ce serait compliqué. Donc c'est vrai que c'est un support aussi finalement à la création, et c'est aussi un support. Alors ce qui est intéressant, c'est comme on peut revendre potentiellement, ça crée également des activités qui mènent des diffusions Wikipédia là où il n'y a pas internet. Donc il y a des projets qui s'appellent notamment la Framaki, qui s'appelle une petite clé USB où on a stocké tout Wikipédia et qui peut se diffuser dans des pays en voie de développement où on n'a pas accès à internet et qui est simplement défrayé, donc qui est simplement vendu au prix de la clé USB et qui peut se mettre sur un réseau local. Donc c'est tous ces usages qui font que Wikipédia peut être consulté, réutilisé au-delà du site lui-même et évoluer dans une sorte de vaste écosystème de distribution de l'information.
Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a aucune image avec droit d'auteur sur Wikipédia, enfin, comment ça...
Alors, sur Wikimedia Commons, qui est la partie... image de Wikipédia, qui est une sorte de projet image au sein de Wikimedia, il n'y a aucune image avec droit d'auteur. Sur Wikipédia elle-même, il y a quelques exceptions qui existent, notamment sur la Wikipédia anglophone, puisque aux États-Unis, il y a ce droit spécial qui s'appelle le Fair Use, qui est une sorte de droit libre, qui est justement aussi une sorte de concession qui est faite aux usages, justement, qui est de dire qu'il existe des usages à des fins de recherche qui peuvent être libres. Et là, pour le coup, ces images sont soumises au droit d'auteur, mais là, c'est systématiquement indiqué.
Oui, juste, je voulais insister sur le fait que, du coup, on voit bien là que la frontière, c'est plus commercial ou pas commercial. On peut faire des usages, contrairement aux idées reçues qu'on a sur Wikipédia. Mmh. C'est pas le service public Wikipédia. On peut réutiliser Wikipédia, hein. Tu parlais de l'exemple de la clé, mais on peut aussi parfaitement éditer un livre à partir d'une série d'articles de Wikipédia, vendre ce livre. Et on peut aussi, en fait, améliorer les articles de Wikipédia. Et donc, finalement, le problème dans tout ça, c'est pas vraiment de faire du commerce, parce que le commerce, c'est important pour tout le monde. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut enclore en fait des contenus de Wikipédia ? Et en réalité, personne ne peut enclore les contenus de Wikipédia du fait de la licence Creative Commons, et pas de n'importe quelle licence Creative Commons, parce qu'il y a tout un ensemble de paramètres dans ces licences, mais c'est bien la clé, en fait, c'est la clé qui est la même clé que pour le logiciel libre, c'est ce qu'on appelle la clause de partage à l'identique. Ce que je mets dans le pot commun, je suis obligé de le reverser. Enfin, ce que je prends au pot commun, pardon, je suis obligé de le reverser au pot commun.
Donc, c'est une politique de partage et de commun. Mais moi, je vais me poser une question simple. Je suis libraire, ou non, je suis écrivain, ou je suis guitariste et j'ai monté mon groupe de chant. Quel est mon intérêt à moi de mettre mon disque là-dedans? Parce que sinon, je vais voir Universal, ils vont vendre chaque copie 50 centimes sur iTunes, 1 euro. Et du coup, pourquoi moi je ferais ça plutôt que de gagner de l'argent de façon mercantile?
Alors, tout simplement parce que si vous signez avec Universal, vous avez un contrat d'exclusivité. Et que c'est du coup Universal uniquement qui va gérer vos droits. Mmh. Alors que si vous le faites en mode Creative Commons, vous maîtrisez en fait les conditions de réutilisation de vos contenus. En fait, les artistes qui sont peu connus ont finalement beaucoup d'intérêt à placer leur contenu sous Creative Commons, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se faire connaître.
C'est une autre logique en fait. Ils souhaitent se faire connaître et avoir une démarche de rémunération autre que leur propre création en fait.
En fait, ils peuvent tout à fait après commercialiser leur contenu. Hein. C'est pas parce que vous mettez votre musique en libre circulation que vous pouvez pas soit vendre des CD. Vous pouvez tout à fait mettre les versions numériques et vendre des CD, vendre des objets. Vous pouvez vendre des produits dérivés. Vous pouvez faire des concerts. Vous pouvez, en fait, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les modèles économiques autour du contenu. Le contenu circule. Par contre, il y a toute une économie qui se crée autour du contenu. Vous avez des groupes québécois. Je pense à un groupe notamment qui s'appelle Mister Valère, qui est un groupe québécois assez connu, qui s'est construit entièrement sur la libre disposition de ses contenus et qui, en fait, vit avec une communauté de fans qui... lui qui fait des dons, qui va à ses concerts, qui achète, voilà. Et du coup, l'idée, c'est de créer ce cercle vertueux, et avec de tels cercles vertueux, quand ça fonctionne, évidemment, mais ça, c'est un peu le côté aléatoire de toute activité artistique, eh bien, ça crée un commun, et ça crée, du coup, quelque chose qui fait vivre des contenus culturels de manière indépendante, des intermédiaires commerciaux, qui, en général, laissent une faible part de rémunération aux créateurs.
D'ailleurs, dans le cas des musiciens, la part, c'est 5%, généralement, la part du revenu, la part du droit d'auteur dans les revenus des musiciens, il y a pas mal d'études dessus, c'est absolument ridicule, en fait. Donc,
Il y a eu des études récentes sur Deezer qui montraient que c'était pour qu'un artiste qui a...
Mais c'est la même chose pour n'importe quelle vente par disque, par droit d'auteur. Ça ne concerne que les plus gros, parce que c'est eux aussi qui sont capables de négocier les plus grosses proportions en termes de vente. Donc on est vraiment en cas typique où ça suffit pas, en fait, à entretenir l'économie artistique.
Donc ce que j'en comprends, c'est que c'est un système qui va permettre non seulement de diffuser des contenus plus minoritaires, mais aussi de faire émerger des artistes de façon différente, tout en gardant un modèle économique. Donc avant d'enchaîner sur la dernière partie, on abordera peut-être quelques sujets qu'on n'a pas abordés jusqu'ici qui pourraient être intéressants. Je vous propose de faire une petite pause musicale. You have to defend your rights, y'all. Get up, stand up.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous venez d'écouter Tikken Jaffa Coli, Ticket Up Stand Up. Alors, l'émission de mode d'emploi de ce soir est animée par la Fondation Copernic et consacrée au commun numérique avec deux invités, Pierre-Carl Langlais et Sylvère Mercier.
Voilà, en continuation de la dernière partie, on parlait des communs. Et je me posais la question, est-ce que Airbnb, est-ce que Uber, qui est actuellement au centre de l'actualité, font partie de ces communs ?
Bah, pour nous, non, surtout pas. La réponse est assez claire. En fait, ce ne sont pas des communs, ce sont des sociétés qui, en fait, vont travailler à exploiter un capital d'usage sans donner aucune possibilité à ces communautés pour les qu'elles font travailler, en fait, donc les chauffeurs pour Uber par exemple, et puis les gens qui hébergent d'autres gens pour Airbnb, d'influencer la manière dont tout ça est organisé. Donc Uber, vous suivez les règles de Uber ou alors vous sortez d'Uber. Uber vous impose un prix en tant qu'entreprise de taxi ou de VTC, vous ne pouvez surtout pas modifier quoi que ce soit. En fait, vous êtes dépendant d'un acteur majeur. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est pas du tout du commun, en fait. On est vraiment sur ce qu'on appelle... Alors, il y a tout un courant de la recherche en ce moment qui parle de travail digital, de digital labor, pour justement montrer qu'il y a une forme d'exploitation de cette volonté de partage qu'ont les gens.
C'est lié à la rémunération, en fait.
C'est lié à la rémunération et surtout au mode de gouvernance, en réalité. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir qu'en réaction à Uber, vous avez certaines municipalités qui se sont dit on va interdire ça, parce que ça pose des tas de problèmes sur le plan du droit du travail, on l'a assez vu en France. Et ce qu'on va faire, c'est on va pas tout supprimer en interdisant et en revenant à un système ancien. La municipalité de Séoul a dit, très bien, c'est extrêmement intéressant comme système, on va garder l'idée du système, et par contre, on va en faire un commun. Et du coup, la ville va créer son propre système de plateforme et de circulation en collaboration avec des entreprises de taxi. Et donc, on voit très bien là qu'il y a une structure qui se met en place dans laquelle on garde l'idée qui est formidable, de la géolocalisation, du fait de pouvoir, en fait, parce que c'est aussi des économies d'énergie qui sont monstrueuses, en fait, pour les taxis, de pouvoir avoir des courses qui sont à très peu de distance les unes des autres. C'est des économies en carburant, en temps, en énergie. Et donc, ce système-là, il est fabuleux. L'idée est très innovante, mais elle est exploitée, et elle est en fait exploitée de manière exclusive. L'idée, c'est d'en faire un commun.
Alors, l'ubérisation de l'économie, la municipalité de Séoul, concrètement, aujourd'hui, en France, quelles sont les prises de position des différents partis politiques sur les communs ?
finalement. On aimerait bien qu'elles soient plus nombreuses, en fait, ces prises de position. Aujourd'hui, vous avez un parti politique, peut-être, qui est le plus proche, en fait, de ce qu'on essaye de développer comme thématique, c'est Europe Écologie et Verts. Parce qu'ils commencent à comprendre les enjeux écologiques autour des communs, parce que c'est des fonctionnements qui sont un petit peu proches des leurs.
Les fonctionnements écologiques, vous pouvez développer un tout petit peu quels sont les bonus les communs là-dessus?
En fait, les communs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est jardin partagé, tout ce qui est gestion des semences, par exemple. Vous avez des enjeux autour de la brevetabilité du vivant, par exemple, qui sont directement liés aux communs. Par exemple, une exclusivité, une enclosure sur une ressource naturelle, c'est une modification génétique que Monsanto va faire pour rendre en fait des semences et les transformer en produits utilisables qu'une fois, là où en fait il s'agit en fait d'une ressource naturelle. Donc on voit très bien que ces tentatives d'enclore en fait le vivant, elles ont des répercussions écologiques extrêmement fortes en fait aujourd'hui. Donc le lien commence à se faire en fait avec ces partis là. Par contre, au niveau des grands partis politiques, que ce soit les Républicains ou le Parti socialiste, il y a quand même en fait très peu d'éléments. Alors ça commence en fait à être quand même une petite prise de conscience en fin là de mandature socialiste, avec la loi numérique qui a posé le débat à l'Assemblée de manière importante. Vous avez quand même certains députés comme Christian Paul qui ont parlé d'enjeux de civilisation. Donc il y a certains députés qui commencent à vraiment avoir compris en fait les enjeux
et qui sortent un peu du
c'est loin d'être
qui sortent un peu du jargon socialiste en tant que tel.
Tout à fait.
Du coup, vous venez de citer la loi numérique république. Je fais le lien avec votre manifeste, puisqu'il y a certaines dispositions communes. En gros, quelles sont les principales propositions qui ont été adoptées à ce jour? Quelle pourrait être la vision un peu politique de la France sur ces sujets?
Et quel est le manque dans cette
Quel est le manque aussi après, du coup?
Je vais commencer un peu par le positif quand même. C'est tout le volet, en tout cas, sur l'accès à la recherche. Donc là, je fais le lien avec une partie d'un manifeste sur la science ouverte. Et il y a depuis quelques années en Europe des lois sur... pour faciliter l'accès à la recherche, mais aussi la réutilisation, justement. Donc, on a une double logique, avec pour idée qu'au bout de 6 à 12 mois, les recherches financées par argent public doivent être librement accessibles, librement diffusées sur Internet, et que tout le monde puisse les consulter. Donc, concrètement, l'idée d'en faire, finalement, pleinement un commun. Ce qui se heurte à de très nombreuses réticences, puisqu'actuellement, la recherche, elle est gérée par des oligopoles comme Google, qui sont même plus forts que Google, à la limite. Ils sont pas du tout connus du grand public, comme Elsevier, Springer. Donc, c'est des acteurs qui sont absolument monstrueux et qui vivent exclusivement, justement, d'un travail qui est fourni par l'argent public ou bénévolement par les chercheurs. Donc, il y a des enclosures massives dans ce domaine. Et donc, l'idée, c'est de dire à la fois de lutter contre ces enclosures, mais de profiter, justement, des accès apportés par le numérique pour rendre, refaire de la recherche finalement un commun. Et donc, de ce point de vue-là, actuellement, dans la loi sur le numérique, il y a une disposition qui dit que tout article de recherche et les données de recherche qui vont avec, donc là, ça rejoint la préoccupation aussi sur ces données, sur la possibilité de vérifier finalement ce qui a pu être fait, doivent être mises en libre accès, peuvent être mises en libre accès 6 à 12 mois, donc il n'y a pas d'exclusivité complète de l'éditeur là-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quand même un point qui est assez positif.
Des points négatifs?
Des points négatifs, c'est tout le débat qui a eu lieu autour de l'article 8, en fait, puisque l'article 8 traitait du domaine commun informationnel. Donc c'était une sorte de, si vous voulez, de mix entre une forme de domaine public et la reconnaissance des communs dans la loi. C'est quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé et qui finalement a été jugé trop peu mûr juridiquement par le gouvernement et a été rejeté. Alors il faut quand même préciser que le débat n'est pas tout à fait terminé, puisque la loi est en discussion en ce moment, ou incessamment sous peu au Sénat, et qu'elle va probablement, mais c'est pas encore tout à fait certain non plus, passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
Donc savoir comment, encore un travail de lobbying à faire.
On y travaille.
Contre les lobbies peut-être autres qui mettent une certaine pression sur ce type de loi?
Les lobbies, il faut les citer aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils restent. C'est par exemple c'est la SACD.
SACD?
Oui, là, c'est des sociétés des auteurs et compositeurs dramatiques.
Il y a plein de ces droits d'auteur en France qui sont très actifs là-dessus, en partie parce qu'elles défendent leurs sources propres, puisqu'elles touchent 20% en moyenne de tous les droits d'auteur perçus en France.
Voilà.
Donc, qui sont très, qui mènent un lobbying extrêmement actif, justement, pour limiter ceci. Puis évidemment, tout un dossier culturel derrière. Alors, c'est voilà. Clair qu'il y a une volonté. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des communs, normalement, ça, techniquement, ça ne revenait absolument pas sur leur intérêt commercial, techniquement, puisqu'on déclarait juste qu'il existe des communs et que ces communs ont un statut particulier par rapport à l'ensemble des productions de propriété protégées par propriété intellectuelle.
Voilà.
Seulement, il y avait des réticences symboliques très fortes, finalement, avec le risque qu'on fasse reconnaître, qu'on fasse émerger toute cette contre-société, ces nouvelles formes, finalement, qui est une forme de reconnaissance et de légitimité.
Voilà. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, c'est au niveau culturel, en fait, les acteurs de la culture qui sont en fait les moins ouverts à ces histoires de communs. Alors que, voilà, les gens qui s'intéressent à l'écologie, comme on disait tout à l'heure, les gens qui s'intéressent aux données, au numérique en général, comprennent à l'innovation ouverte, en fait. Énormément d'entreprises s'intéressent aux communs aujourd'hui. Parce que les entreprises comprennent qu'elles ont beaucoup plus intérêt, en fait, à coopérer, y compris autour de brevets, autour d'inventions, pour les construire ensemble, plutôt que de mettre des enclosures qui finissent par leur coûter très cher. Vous avez tout un phénomène de procès avec des centaines de millions de dollars à la clé et qui est un fonctionnement que même les multinationales aujourd'hui rejettent en commençant à coopérer autour de la propriété intellectuelle.
Alors on me fait signe que l'émission a bientôt touché à sa fin. Alors je vous propose un dernier mot pour la fin. Si vous avez un message à faire passer, quelque chose à dire, n'hésitez pas, c'est le moment sur ces sujets. Pierre-Carl.
Moi, ce qui me semble important, c'est que tous ces communs sont développés et qu'ils ont besoin de participation et que, notamment, enfin, par exemple, sur Wikipédia, mais bon, il y a pas mal de communs qui sont finalement assez faciles d'accès, qui ont besoin justement de ces bénévoles pour faire vivre la ressource, mais aussi pour apprendre aussi ce que c'est qu'un commun. Et c'est vraiment en étant dedans qu'on arrive à comprendre comment, et toutes ces logiques de démocratie directe assez extraordinaires qu'on peut voir émerger sur Wikipédia, sur OpenStreetMap, ces logiques d'accord. Donc c'est vrai que c'est une expérience quand même assez extraordinaire et c'est vrai que j'inviterais un peu les gens à simplement déjà jeter un petit coup d'œil, essayer de mettre un peu la patte dedans, puis aussi pour redevenir quand même acteur finalement de tout un processus.
Tout à fait, en fait moi j'irais aussi dans ce sens-là et puis peut-être en ajoutant aussi qu'il y a tout un mouvement qui se construit aujourd'hui autour de ce qu'on appelle des assemblées et des chambres des communs. Les assemblées, les chambres des communs, c'est une idée qui a été citée par quelqu'un qu'on a, enfin pensée en fait par quelqu'un qu'on n'a pas cité aujourd'hui mais qui mérite d'être cité, qui est Michel Bowens, qui est quand même le grand théoricien. Donc Michel Bowens, c'est l'inventeur de la Peer-to-Peer Foundation, qui est en fait c'est un activiste en fait qui essaye de penser les communs et de manière assez concrète. Et donc là, il a proposé tout un réseau d'assemblées des communs. Vous en avez aujourd'hui dans pas mal de villes en France, articulées à des chambres des communs. Et l'idée, c'est un petit peu comme s'est fait la structuration progressive du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui évidemment aussi a beaucoup de liens avec les communs. Ce serait de structurer petit à petit ce champ des communs numériques et des communs en général, des communs de la nature, pour petit à petit leur donner une légitimité institutionnelle, sans faire en sorte que d'ailleurs ce soit absorbé par l'institution, surtout pas, c'est toujours le danger dans ces cas-là, mais faire en sorte que ce soit reconnu et qu'il puisse y avoir des politiques publiques, en fait, qui viennent en appui au commun. Nous, on appelle ça de nos voeux depuis très longtemps dans Savoir Commun.
Pierre-Carl Anglais, merci. Sylvia Mercier, merci. Donc l'émission touche à sa fin. Nous remercions aussi Claude à la technique.
Merci Claude.
Donc le prochain numéro de Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le vendredi 22 avril sur un sujet tout aussi clivant puisqu'on discutera de l'avenir du nucléaire en France. On vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Madame, je jalouse souvent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, souvent suaves et si douces.